Le cours de ce soir portera sur le sacrifice de la croix. C'est un cours assez compliqué, assez chargé du point de vue des questions théologiques qui l'habitent. Vous avez le plan général ici qui s'affiche et vous aurez droit à deux séances sur ce sujet. Nous allons voir, voici le plan général, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons voir les plans 1, 2, 3 en premier, c'est-à-dire ce soir. Donc la rédemption, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre ce mot comme clé pour comprendre l'ensemble des problématiques du sacrifice de la croix. Puis je vous exposerai assez longuement comment cette idée très belle de rédemption va être contaminée par celle du sacrifice et pas sous ses meilleurs auspices, si j'ose dire. Et ensuite, troisième point, comment peut-on procéder à une décontamination? Comment peut-on s'en sortir, quoi, de cet héritage très pesant? Donc, allons-y avec le premier paragraphe sur le rédempteur. Il faut éclairer cette notion. Dans le vocabulaire chrétien, nous utilisons des expressions théologiques. Elles sont, pour la plupart des gens, y compris nous, elles sont, il faut bien le reconnaître, assez obscures. Alors imaginez, pour les gens qui ne sont pas du sérail, qui ne sont pas de la bande, comment comprendre une expression comme « le Christ est notre rédempteur », ce dont nous allons occuper ce soir. Vous avez ici une image de l'agneau de Dieu, comment comprendre également agneau de Dieu pour désigner Jésus-Christ? Ou bien encore l'expression il est venu racheter ceux qui étaient perdus. Ou bien cette pensée de Pascal hein, dans la nouvelle numérotation, la 8H, je pense, il fait parler de Jésus qui dit je pensais à toi dans mon agonie, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. C'est quand même un peu incroyable comme propos, inavalable à vrai dire. Mais en voici d'autres, hein, extraites du Nouveau Testament et même de l'Évangile, outre l'expression « voici l'agneau de Dieu » qu'on trouve dans Saint Jean chapitre 1, ça on va y revenir. Une autre citation dans Marc, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, jusqu'à là tout va bien, et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. » Marc chapitre 10. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rançon? Auprès de qui? Comment comprendre l'expression, autre expression qui appartient au vocabulaire théologique, au vocabulaire de la piété en tout cas certainement, comment comprendre le sacrifice expiatoire du serviteur souffrant? Comment peut-on comprendre ça? Il est, ou bien l'expression dans Saint Jean, première lettre de Saint Jean, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Ou tout simplement, hein, l'expression, il a souffert pour nous. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut souffrir pour les autres? Oui, on peut souffrir en se donnant aux autres, on peut être en patient, en durant. Voilà. Et dans Saint Paul, ce type d'expression abonde. On aura à s'en expliquer. Je vous lis par exemple au chapitre 3 des Romains. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Jusqu'à là, on comprend. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang pour montrer ce qu'était sa justice du fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois. Alors là, il va falloir qu'on s'explique. Ouais, c'est donc Dieu qui aurait destiné Jésus pour servir d'expiation par son sang, donc un sang expiatoire, il faut que ça saigne, pourquoi? Bon, il faut à tout prix comprendre ça. C'est l'objet de cette soirée. Il nous faut bien garder en mémoire que tous ces termes appartiennent à la culture juive, mais même plus largement a eu un des plus anciens marqueurs du fait religieux universel, le sacrifice. Et là aussi, il va falloir s'expliquer. Celui-ci, en effet, demande, pour ne pas risquer des impasses, voire même des perversions, une étude particulièrement attentive. Mais, pour ne pas partir d'un mauvais pied dans ces impasses, ces perversions, ces dévoiements, je vous propose de voir d'abord le mot rédempteur, rédemption, car il est extraordinairement remarquable, positif, et il va nous entraîner, enfin il va nous éviter en tout cas d'entrer dans des fausses pistes. Il y a un sens premier, lexical, de ce mot rédempteur. Le mot rédempteur, ici vous voyez l'image d'un esclave qui tient ses chaînes, l'idée c'est celui d'un rachat, rédempteur, le racheteur. Il y a l'obligation d'un rachat que nous trouvons dans le livre du Lévitique, un des cinq livres de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. C'est un livre de loi, très fatigant, très ennuyé à lire. Mais vous avez au chapitre 25 du livre des Lévitiques, une loi qui est bien connue sous le nom de la loi du Goël. Alors je résume, parce qu'il y a deux chapitres et demi sur le propos. Quand quelqu'un de votre famille se trouve dans des difficultés telles qu'il est obligé de vendre, par exemple, une vigne qui appartient à la famille, eh bien, la famille, les cousins, les frères, les sœurs, les oncles, doivent se réunir et doivent racheter cette terre. Parce que c'est la terre de la famille, c'est notre commun. De même, si l'un d'entre vous est vendu comme esclave pour dette, hein, ça arrivait à l'époque, et encore bien sûr sous l'Empire romain, eh bien nous devons nous réunir pour le racheter, parce que c'est un membre de la famille. Car rien ne peut être perdu de ce que Dieu nous a donné. Pour bien comprendre ça, je vous raconte une histoire qui est dans la Bible. C'est l'histoire de Boaz. En 410, avant Jésus-Christ, Élimélec est obligé de migrer pour cause de famine vers Moab, au sud de son pays, vers l'Égypte. Il quitte donc Bethléem, sa ville, avec sa femme, Noémie, et ses deux fils. 15 ans plus tard, pour fait de guerre, ses deux fils périssent, et lui-même décède de vieillesse. Il reste donc sa pauvre femme Noémie qui est veuve et la veuve d'un de ses fils, Ruth. Ce nom est connu, peut-être que ça vous évoque quelque chose. Dépourvue de tout, Ruth et sa belle-mère retournent à Bethléem, le pays d'origine de Noémie. Elle retrouve là un membre de la famille d'Élimélec et fait valoir son droit de Goël auprès de lui. C'est-à-dire, elles viennent le voir et elle dit « Mais on est de ta famille, souviens-toi, Élimélec a épousé Noémie, que voici, souviens-toi de nous, exerce ton rôle de rédempteur, celui qui va racheter. » Et donc Boaz, hein, c'est son nom, on accepte parfaitement le principe, c'est la loi du Goël, c'est un bon juif, et donc il va lui venir en aide, car elle est veuve d'un cousin. Et voilà qu'il va être en effet le rédempteur. Donc voilà, vous voyez, l'origine de ce mot, très beau mot, racheter, le rachat, la rédemption, ça veut d'abord dire ça, retrouver ce qui est à nous, recomposer l'héritage dilapidé. Ça nous a été confié par Dieu, nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous devons le retrouver, retrouver ce qui était perdu. Quand on dit donc que le Christ est notre rédempteur, eh bien ça veut dire qu'il vient récupérer ce qui est à lui, ce qui est de lui, qui n'aurait jamais dû être dilapidé chez les étrangers ou sous le régime de l'esclavage. Et vous vous souvenez probablement ce qu'on a étudié dans le prologue, Saint Jean chapitre 1, « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reconnu. » Et quand le Christ vient en humanité, il vient récupérer ce qui est à lui, il est chez lui. Nous sommes son bien. Et ça c'est extraordinaire de penser ça. Et donc il vient récupérer ce qui est à lui. C'est un premier sens du mot « rédemption » qu'il va falloir garder précieusement, hein, parce que c'est la clé pour ouvrir d'une manière positive l'ensemble de ce travail de ce soir. Il n'y a pas d'étrangeté entre nous et Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Il y a une parenté, une sorte de familiarité. C'est dans ce sens, il faut comprendre l'incarnation du Fils comme œuvre de rédemption. Il vient chercher ce qui était perdu, et donc les images du bon pasteur s'imposent comme celle-ci à Ravenne. C'est donc tout le ministère de Jésus, de la naissance, miracle, enseignement, qu'il faut comprendre comme œuvre de rédemption. Il nous ramène chez nous. Il nous rachète, nous qui avons été soumis à l'esclavage. Alors, quand je dis tout le ministère de Jésus, ça veut dire de sa naissance à sa passion, mais pas uniquement la passion. Vous voyez, parce que très systématiquement, quand on dit le Christ est notre rédempteur, tout le monde pense à la passion. Et ce que je vous dis là, vous voyez, c'est le fait de penser rédempteur comme la loi du Goël, eh bien c'est le versant positif. Mais il y a dans le même univers mental que rencontre le mot rédemption, il y a un hiatus. Qui dit rachat, dit qu'il faut payer. Et donc, trop rapidement, nous pensons spontanément que si le Christ vient nous racheter, il paye lui-même la dette. Et aussitôt, la passion de Jésus nous vient en tête. Et c'est là que nichent tous les problèmes. Mais, bon, il y a une question annexe hein, qui se pose avant même d'aller voir comment les problèmes et les impasses se sont additionnés sur ce concept de rachat jusqu'à l'écraser, quoi. C'est la question qui se pose, c'est la question de la conscience que Jésus avait lui-même de cette rédemption. Je l'ai dit, que Jésus soit celui qui vient chercher ce qui était perdu, ça correspond à toute sa vie. Et c'est bien la fonction de Goël qui met en œuvre, hein, quand il dit « va te montrer au temple, au prêtre ». Il restitue les gens dans un culte, il les remet debout, enfin, etc. Comme vous voyez sur cette image du début du XXe siècle. Les hommes éloignés de Dieu par l'impureté rituelle, par le dévoiement des règles religieuses, par le rejet des autres, par l'orgueil, par la richesse, eh bien il va ramener tous ces gens dispersés, il va les ramener dans le bercail. Et par toute sa vie, par tous ses comportements, comme vous le voyez ici, et par tous ses enseignements, qui sont véritablement une œuvre de salut. Tout de lui est fait pour notre rédemption, c'est-à-dire pour que nous revenions vers Dieu, chez lui, c'est-à-dire authentiquement chez nous. Mais que sa mort fasse partie de la rédemption, en avait-il conscience? Le contraire serait étonnant, puisque nous mourrons tous. Il s'est fait vraiment homme, on l'a largement vu, et donc il sait pertinemment, comme tout à chacun, que nous allons mourir. Et que s'il y a des questions profondément existentielles qui remettent en cause le sens même de la vie, et les raisons d'une vie bonne, c'est bien la question de la mort. Donc, ok, Jésus savait qu'il allait mourir. Mais savait-il, je pose des questions de la conscience hein, que Jésus avait de lui-même, savait-il la résurrection? En tout cas, il l'a annoncé plusieurs fois. Donc vous le voyez, vous le savez bien, les disciples sont d'ailleurs effarés hein, par ce que Jésus annonce. Ils refusent cette annonce de la mort et de la résurrection. Évidemment, ils ne pouvaient pas comprendre. Et c'est en cela qu'il meurt pour nous, parce qu'il vient nous rejoindre, nous qui allons tous mourir. La mort, qu'est-ce que vous voulez? C'est le big jump, hein, le grand saut. Sauf qu'avec la résurrection, ce n'est pas un saut vers le néant. La mort n'est plus une perte absolue. Mais pour nous, depuis que le Christ est mort et ressuscité, pour nous, c'est une Pâque. Bon, donc voilà pour la mort. Mais savait-il qu'il allait mourir de cette mort-là, crucifié, dans des souffrances dingues? Eh bien là, figurez-vous, rien ne le dit dans l'Évangile. Il se doutait bien que ça allait mal finir, et même ses apôtres s'en doutaient, qu'ils lui disent « Non, non, ne monte pas à Jérusalem, il cherche à te faire la peau. » Donc tout ça, il le savait, il l'ignorait pas. Hein. Mais comme tous les prophètes, ou comme beaucoup d'entre eux, il savait qu'il serait emprisonné, évidemment, peut-être exilé, bon, lapidé dans le pire des cas. Mais là, crucifié, probablement l'ignorait-il complètement. Or, c'est bien là que se situe le problème, dans ce type de mort d'un prophète, qui est une mort parfaitement violente, abjecte. Le problème, c'est que ça ressemble beaucoup à une vraie boucherie, à un sacrifice bestial, comme on le fait avec les animaux au temple. Et donc, vous voyez, cette ressemblance avec les sacrifices animaux va orienter, amplifier et déformer, en fait, l'interprétation. Alors, voici à nouveau le plan. Nous passons aux fameuses contaminations après avoir donc bien observé le côté positif de ce mot rédemption. Ce que j'appelle contamination, ce sont des influences liées en fait à nos psychologies, psychologie individuelle, inconscient collectif, aux influences constantes du paganisme sous-jacent à tous les monothéismes, et là, c'est pas du tout dans un sens négatif, c'est bel et bien là, comme une sorte de nappe phréatique. Et donc, il faut savoir que toutes ces contaminations, tous ces agents vont se combiner et vont prendre leur temps pour émerger. Et ces contaminations sont toutes très persistantes. Bon, c'est ici, je suis en train de faire du Jung, vous savez, le psychologue des inconscients collectifs, des archétypes. Tout ce que nous allons voir ici relève de pratiquement autant de la psychologie que de la théologie. J'ai parlé de trois contaminations, les voici. Il y a, premièrement, un véritable traumatisme de la passion du Christ, je vais en revenir tout de suite. Il y a ensuite, à partir du 6e siècle, une pollution du droit féodal. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à comprendre. Et puis, il y a enfin, se greffant sur le vocabulaire du sacrifice, une montée d'interprétation qui charge la croix de Jésus de signification, en réalité, bien éloignée du salut chrétien. Alors, allons-y avec le premier point, le traumatisme de la passion. Pour tous les contemporains de Jésus, et pendant plusieurs siècles, six siècles, la tragédie de la croix est une vraie difficulté. Et d'ailleurs, on ne représentera pas la croix dans les six premiers siècles de l'histoire du christianisme. Enfin, on ne représentera pas le crucifié. Parce que là, quand on écrit les évangiles, on est en pleine persécution. Les gens sont encore crucifiés. Et le long des rues. Et donc, c'est pas possible. C'est un traumatisme absolument effrayant, c'est un supplice complètement abject. Et donc, comment une telle humiliation est-elle possible? Bon, voilà. Il y a un très grand traumatisme. Et ici, je m'inspire du texte de Sesboé, « Croire », les pages qui précèdent le texte que vous avez lu en équipe, vous lirez bientôt sur ce sujet. C'est les pages 279 à 289 qui m'occupent. Saint Paul le dit bien, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Eh bien, littéralement, ça n'a pas de sens. En quoi un tel échec, une telle boucherie est-elle à prêcher? Bien évidemment, on ne peut prêcher, annoncer, évoquer la passion du Christ sans la lumière de la résurrection. Et ça, il faut le redire sans cesse. Hein. Et donc, quand on a parlé dans les évangiles de la passion du Christ, c'est toujours avec la lumière de la résurrection. Mais alors, question, hein, pourquoi les évangélistes ont tous raconté abondamment la passion? Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Eh bien, vous savez, il faut aller y voir de plus près. En effet, ce sont des récits assez longs. Mais ce sur quoi insistent les textes, c'est le procès de Jésus. C'est l'injustice qui lui est faite, c'est l'abandon, le pardon, l'innocence, évidemment. Bref, d'un côté, l'ignominie humaine, le calcul, les coups fourrés, et d'un autre côté, une sorte de lâcher-prise de la part du Christ. Il s'abandonne. Alors, en quoi ça nous sauve, ça ? Disons, ça participe à notre rédemption parce que cette injustice, ces coups foireux, l'innocence victime, le mensonge gagnant, qu'est-ce que vous voulez ? C'est hélas la condition humaine. C'est notre lot, peut-être pas à nous, mais en tout cas à tellement de gens. Ce n'est pas le tout de notre humaine condition, ce n'est certainement pas la vérité de notre vie, mais c'est ce qui nous ruine le plus efficacement. L'iniquité, l'injustice, le mensonge. Et c'est, de fait, c'est ce qui nous ruine dans notre existence, bien plus terriblement, bien plus profondément, en fait, que la maladie. Et ça dégrade en nous quelque chose de beaucoup plus fort que la santé. C'est cette souffrance-là qui est rejointe par celle du Christ. C'est notre mort qui est rejointe. Et ça, ça a déjà un certain intérêt comme tel. Hein. Vous savez bien, rejoindre les gens dans leurs difficultés, d'une certaine manière, ça les réconforte. On ne leur apporte pas grand-chose. Mais voilà, on est là, on vient les voir, on les rejoint. Mais ça a encore plus de signification pour tous du fait de la résurrection. Et le fait de la résurrection, ça veut dire quoi ? Ça veut dire non, le mal n'est pas le tout de l'homme. Non, l'iniquité, l'injustice, le calcul n'est pas la vérité de notre humanité. Alors oui, l'homme est un loup pour l'homme, mais même ça, ça peut être sauvé, ça peut être vaincu. Notez bien, au passage, que je dis, ça prend beaucoup de place, les récits de passion prennent beaucoup de place dans les quatre évangiles, mais notez bien, les quatre évangélistes n'insistent pas, ne donnent pas de détails, ni ne tiennent de propos d'ailleurs, explicatifs sur la souffrance de Jésus, sur ses tortures. Et le texte est très factuel. Hein. Et Pilate le fit flageller, point. Puis point final, quoi. Alors que vous avez tourné quatre pages sur le procès, sur le renvoi entre le Sanhédrin, entre Pilate, sur les calculs. Et ils l'emmenèrent pour le crucifier, point. Et on ne nous raconte rien sur les clous de la croix, rien du tout. Si vous voulez, les évangiles, c'est l'anti-Mel Gibson. À moins que Mel Gibson soit l'anti-évangile. Bon, ça, c'est un autre problème. Et donc, la première réponse des chrétiens, ça a été de tout relire à partir de la résurrection. Ici, vous avez un petit tableau de Rembrandt, le doute de Thomas. Et c'est ça la vraie libération, la vraie rédemption. Sinon, Jésus ne serait qu'un Martin Luther King comme un autre. Les gens qui ont souffert d'une manière injuste, ils n'ont pas sauvé grand monde, et il y en a des tonnes. Rappelez-vous, il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens, on l'a lu dans le prologue de Jean, pour rapatrier chez eux ceux qui étaient dispersés. C'est ça la rédemption. Chez eux, c'est-à-dire en Dieu, notre véritable patrie. C'est la mort qui nous retenait captifs, c'est l'iniquité qui souvent nous ligote, et c'est elle que le Christ affronte et vient vaincre. Je me répète, mais c'est quand même le message central de la foi chrétienne avec cet autre, qui nous vient des pères cappadociens, mais qui est presque un adage qu'il faudrait apprendre par cœur. Dieu s'est fait proche de nous pour nous rapprocher de lui. Formulé autrement, Dieu est venu chez nous pour nous faire demeurer en lui. Bon, donc voilà l'essentiel. Alors maintenant, pourquoi je parle de contamination ? Mais c'est parce que la souffrance de la passion est tellement abjecte que nous avons voulu y trouver des raisons. Et ça, vous savez, c'est un philosophe contemporain, Paul Ricoeur, hein, qui dit qu'il faut jamais chercher une raison au mal, ça lui donne raison. Voilà, c'est le mal est sans raison. Ah ben non, objecte-t-on. Il y a des gens qui m'objectent dès que je dis ça. Hein. Pourquoi ? Parce que Jésus a bien dit « Mon sang versé pour vous ». Mais alors attention, hein, si vous avez un tout petit peu de culture juive, il parle alors de sa vie quand il dit « verser son sang ». Et de plus, mais on y reviendra, de plus, quand il dit ces paroles, quand il prononce ces paroles, « mon sang versé pour vous », il est en train de fonder et de parler de l'Eucharistie, de ce qui deviendra l'Eucharistie, pas de sa passion. Il ne parle pas de sa passion quand il dit « je buvais mon sang ». Je crois vraiment donc que c'est l'Eucharistie qui éclaire la passion, c'est pas la passion qui explique l'Eucharistie. Nous verrons ça la prochaine fois, quand on fera, donc dans 3 semaines, quand on fera la messe est-elle un sacrifice. En fait, je répète, les paroles de Jésus concernant son sacrifice sur la croix n'existent quasiment pas. Il y a des allusions, hein, bien sûr. Par exemple, il dit « Pouvez-vous boire le calice que j'aurai à boire ?» Donc voilà, il y a des allusions à certainement une mort violente. Mais il y a très très peu. Et quand il parle, et ça c'est vraiment l'essentiel, quand il parle de donner sa vie en nourriture, quand il dit qu'il boit mon sang à la vie en lui, pas d'erreur, c'est de sa présence en nous dont il parle. C'est sa parole de vie qui nourrit la vie authentique. Le sang, je vous l'ai dit, hein, le sang dans le monde juif, c'est la vie. Et donc il dit « Je vous donne mon sang, buvez et mangez, voici mon sang, voici mon corps ». Ça veut dire « Je vous donne ma vie ». C'est ça que ça veut dire. Que nous ne sommes pas nourris de sa mort, nous sommes nourris de sa vie, de ses enseignements, de son ministère, de sa vie. Quand il dit « Mon corps est une vraie nourriture », c'est parce que ce que l'on mange, on l'assimile, ça devient nous. Nous devenons chrétiens, christophores, peut-on dire, porte-Christ. Et c'est dévié, donc, que de tout lire à partir de la souffrance de la croix. Je pense que c'est faire une erreur. Il faut tout lire, premièrement à partir de la résurrection, deuxièmement à partir du fait que chez les juifs, le sang, c'est la vie. Bah, comme d'ailleurs dans nos centres de transfusion sanguin, on le sait très bien. Et donc, vous voyez, ce premier point très important, là, je fais une petite pause, hein, et on se retrouve sur un autre document sur la suite, le vocabulaire du droit féodal. À tout de suite.